Tout de suite, on retrouve mon invité, direction Bourges pour la 49e édition du Printemps de Bourges. Et le Printemps de Bourges, premier festival des musiques actuelles, vous invite à fêter sa 49e édition. C'est du 15 au 20 avril, une édition où l'émergence musicale restera l'ADN du festival. 130 artistes présents sur les différentes scènes. Et une édition qui n'échappe pas aux coupes budgétaires du monde culturel. On en parle justement avec mon invité Boris Vedel, directeur général du festival.
Oui, peut-être qu'on peut y voir entre les lignes, puisqu'on s'interroge sur une salle qui n'est plus là, ou peut-être une dizaine d'artistes à l'affiche en moins, mais bon, après je tiens à rassurer quand même tous les fans du printemps, l'affiche elle est toujours, je pense, peut-être encore plus riche que certaines, c'est l'une des plus riches, moi personnellement, ouais. Je trouve qu'on ait fait, mais sur les créations et sur les groupes émergents, c'est quand même assez très dense. Maintenant oui, ils ont raison, c'est sûr que c'est compliqué pour les acteurs culturels, mais j'ai envie de dire, des fois les acteurs culturels, ils peuvent être un peu nombrilistes, mais c'est malheureusement des soucis qu'on partage avec tout le monde, et pas que les acteurs de la culture, mais oui, et c'est peut-être aussi un peu paradoxal, c'est qu'on est dans un territoire qui fonce vers une capitale européenne de la culture, et je sens vraiment qu'il y a nous au printemps, beaucoup d'envie pour produire et pour faire que ce soit une très très belle capitale européenne de la culture, et donc c'est peut-être un peu paradoxal que quand la culture doit être mise à l'honneur, on est peut-être un peu contraint. Néanmoins, je précise quand même que tous les acteurs culturels de la région font tout ce qu'ils peuvent quand même pour, je parle des acteurs, les collectivités, répondent présents et font tout ce qu'ils peuvent. Après, je pense que c'est vraiment pas simple pour eux. Ils essaient de se maintenir à niveau, mais malheureusement, vous avez remarqué vous-même au supermarché, les prix ne cessent d'augmenter.
Exactement. Ouais.
Donc, naturellement, nos moyens réduisent.
On va évoquer, bien sûr, le 22, on va évoquer toutes les scènes à côté. Il y a le W, bien sûr. Comment on arrive à le rendre sexy? Comment on arrive à le rendre attrayant, ce W, quand, justement, on est dans une situation budgétaire comme celle-là?
Alors, c'est un exercice assez compliqué pour le printemps, parce que c'est pas un festival d'été. Donc, c'est vrai que nous, ça fait 10 ans que je suis... aux commandes du printemps avec toute l'équipe, et c'est vrai que c'est un monde qui est en train de muter, le monde des festivals, avec des artistes internationaux qui sont de plus en plus rares, qui sont là que l'été, qui coûtent très très cher et qu'on pourrait difficilement s'offrir. Mais au-delà de vouloir se les offrir, ou de pouvoir, est-ce qu'on veut se les offrir? Moi je pense que le printemps, sa mission, et depuis 77, le printemps il est là pour dévoiler des nouveaux artistes, et aujourd'hui de plus en plus d'aller vers des créations, ouais. Où on retrouve justement des artistes qui donnent des temps un peu précieux et très rares aux festivaliers. Donc je pense qu'il faut qu'on cultive ça et qu'on n'oublie pas ce qu'on doit faire dans la rue, parce que le printemps c'est aussi beaucoup de gens, peut-être majoritairement des gens qui ne sont pas dans les salles. Donc c'est pour ça que le format du printemps il est très compliqué, mais en même temps il nous offre ce luxe de pouvoir varier notre géométrie. C'est vraiment une géométrie très variable, le printemps, on peut faire un peu ce qu'on veut.
Et une programmation, le printemps dans la ville, qui arrivera donc dans quelques jours,
qui arrivera le jour du printemps, c'est le 20 mars, ouais. Maintenant, pour répondre à la question de tout à l'heure, comment on rend le W, notamment la plus grande salle sexy, c'est de faire des combinaisons. C'est vrai que la programmation, on met MC Solar, Ozzy Hefner, Fight Boy Slim, c'est... À assez étonnant finalement. Ouais, et c'est, mais en fait, là, il y a un message qui est adressé à une génération qui a sans doute un peu plus de 30 ans. Et enfin, ça ne veut pas dire que les moins de 30 ans ne peuvent pas venir. Hein. C'est que des artistes. Donc, ça, c'est des plateaux, j'ai envie de dire, où le coût est contenu, est maîtrisé, et où en même temps, on sait que ça va être une soirée jusqu'à 2h du matin qui va être super. C'est un peu différent quand on réunit Clara Luciani et Jean-Louis Aubert ou quand on invite Paul Naref. Mais... Donc, c'est assez composite. Tous les ans, ça changera. Je crois pas qu'il ne. C'est un copain directeur de festival, patron de chez nous, qui me disait ça. Je trouve que c'était assez juste. On peut avoir le même chaudron, mais les ingrédients changent tous les ans. Donc il n'y a pas de recette. Tous les ans, il faut faire différemment.
Et à côté de cette programmation, il y a l'émergence qui reste l'ADN principal du festival avec les Inouïs. Ils fêtent leur 40e anniversaire, si je ne me trompe pas, cette année. Et j'ai l'impression qu'ils sont encore plus présents dans la programmation au-delà de ce qui va se passer au 22, mais également dans les créations. Il y a une création, d'ailleurs, anniversaire Inouï.
Toute première fois, tout à fait. Ce sera la création du samedi qui viendra célébrer 40 ans d'Inouï et de découverte du printemps, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque en 85. Toute première fois, c'est un petit clin d'œil à Jeanne Masse, hein, qui n'était pas Inouï elle-même, mais qui est une artiste Inouï, cela étant. Oui, ils sont de plus en plus présents. Alors, moi, j'y vois le signe que les équipes bossent pas mal. Et les équipes de Réseau Printemps et des Inouïs, c'est plus de 300 professionnels dans toute la France. C'est vraiment le premier dispositif de repérage et de sélection en France, le plus complet. Et je pense que s'ils détectent bien, on les retrouve naturellement dans notre programmation.
Nous, on va rester dans les créations. Il y a trois créations à côté de ça. Une hommage à la musique arabe, une autour du jazz. Là aussi, cette volonté de varier les plaisirs, les goûts musicaux et d'attirer un public vraiment très large à travers ces créations.
Ouais, c'est l'envie de se faire plaisir, c'est l'envie de prendre des risques, et puis c'est l'envie de faire rayonner le printemps plus fort là. Je pense vraiment que quand encore une fois on essaie de se projeter dans le futur, ça fait bientôt 50 ans qu'on est là, le printemps. Alors est-ce qu'on sera encore là dans 50 ans? Je pense oui, mais sans doute pas en faisant comme les autres. Et donc pour pas faire comme les autres, l'émergence, la découverte, et comme vous venez de le dire, les créations. Et effectivement, une création en langue arabe, ça fait extrêmement plaisir. On n'a jamais fait ça. On le fait avec l'Institut du Monde Arabe. Donc je pense que ça prouve toute la légitimité, tout le respect qu'on a eu sur ce répertoire de Oum Kalsoum, qui est la plus grande diva, l'une des plus grandes divas du monde de culture arabe. La création autour du jazz avec Sur qui j'arrête, c'est pareil. Et là, on questionne quasiment l'intelligence artificielle, puisqu'on s'amuse à jouer de l'apprentissage de l'homme, de l'être humain, et puis de la machine, parce que la machine aussi, elle apprend. Donc c'est de voir comment les deux vont réinterpréter ce qui ne se réinterprète pas, puisque cette création de Qui j'arrête, c'était une improvisation pure.
Une création autour de l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, vous avez parlé de risques aussi à prendre. Quand on fait un festival musical, l'intelligence artificielle fait pas mal débat en ce moment. On sait qu'il y a des pour, il y a des contre. Justement, ce risque, il est assumé. On intègre l'intelligence artificielle dans une création.
Oui, je pense qu'il faut... c'est-à-dire qu'il y aura toujours des pour et des contre, mais elle est là. Elle est déjà là. Elle est déjà là dans les claviers des synthétiseurs. Elle est là depuis des années, l'intelligence artificielle. Alors après, bon, là j'espère juste que ça va pas partir en sucette et que va tous nous tuer à la fin du concert avec une machine. En toute logique, on la paramétrait pour qu'elle nous assassine pas à la fin du concert. Mais non, mais ce qui est intéressant là, c'est que c'est un vrai sujet parmi les créateurs, effectivement, de se dire est-ce que demain... la machine ou des intelligences, des logiciels vont remplacer.
Comment travailler avec,
Alors, essayer de composer avec, mais c'est super intéressant le sujet parce que c'est aussi une question de droit. Ces machines, on questionne l'apprentissage. Ces machines, elles apprennent avec des choses préexistantes. Ouais. Donc, est-ce qu'elles respectent les droits des artistes desquels elles apprennent? C'est ça qu'on va questionner. Et de rappeler qu'une machine, c'est comme un être humain, ça doit apprendre. Donc on peut bien apprendre, on peut surtout apprendre des conneries.
J'aimerais qu'on termine avec cette dernière chose, c'est l'accessibilité à tous. Il y a cette volonté d'avoir des prix qui sont quand même raisonnables pour tous les publics. J'aime pas dire que c'est pas cher parce que ça reste une somme quand même pour certaines personnes écoutent. Bien sûr. Mais ça reste accessible quand même selon la programmation.
Oui, c'est un vœu parce que déjà on est un festival aidé. Donc quand même, ce serait un peu étonnant qu'on fasse pas un effort sur la tarification du festival. Je pense que la majorité des salles on est sur des prix qui commencent à 10 euros ou 15 euros pour des artistes, encore une fois, qui sont sans doute promis un très bel avenir. Donc c'est le prix la curiosité,
la découverte.
Le W, oui, c'est vrai que le prix, par contre, les gens nous disent c'est de plus en plus cher. C'est vrai. Les artistes sont plus chers, la technique est plus chère, l'énergie est plus chère, et malheureusement, on a du mal à contenir ces prix. Polnareff est un peu plus cher que effectivement ce qu'on peut faire habituellement. C'est très sincèrement, on s'efforce tous les ans de rester raisonnable, mais ça devient de plus en plus compliqué.
L'énergie est plus chère, c'est pour ça qu'il y a également une proposition
sans
énergie, justement.
Bah oui, un concert sans électricité, juste à la voix humaine, à l'instrument qui n'est pas amplifié, pas de micro, et puis des bougies. Je veux dire, mettre des bougies dans un monument national, ouais. Autant vous dire qu'ils nous font confiance. Hein. Donc, ça va être un moment très intime au Palais Jacques-Cœur. On les remercie, les monuments nationaux, de nous permettre de faire cette création. C'est un cycle comme ça de concerts sur 3 jours et ça va être super.
Mais c'est une manière aussi d'allier le patrimoine de la ville avec un festival, un acteur culturel que vous êtes, le Printemps de Bourges. C'est un petit clin d'œil aussi à Bourges 2028. Vous l'avez beaucoup évoqué dans cette conférence de presse. Ouais. Il y a 2 choses qui sont beaucoup revenues, c'est les 50 ans l'année prochaine et Bourges 2028. On sent que cette 49e édition, c'est un petit peu la dernière avant un nouveau cycle.
Ouais, c'est pas mal, c'est vrai, c'est un peu ça. C'est vrai que alors moi j'avais souvent un peu la métaphore, j'étais très prudent en disant il faut vraiment qu'on soit très prudent cette année parce que j'aimerais pas, ce serait quand même dommage de se casser une jambe avant le 50e. Et prudent parce qu'encore une fois on avait assez peu de visibilité, ouais, sur ce que seraient nos moyens sur cette année. Mais oui, vous avez raison, Bourges 28, moi personnellement je suis impliqué, c'est une chose, mais c'est convaincu de la chance qu'est Bourges 2028, et pour être ici maintenant à Bourges depuis 10 ans, on voit tout le potentiel qu'a la culture pour réveiller ce territoire et le mobiliser, parce que c'est pas un territoire endormi, ouais, en disant. C'est des gens qui sont trouvent très laborieux, créatifs, courageux, les Berrichons. Et là, c'est super parce que c'est un contexte qui va permettre justement d'aller un peu vers l'extérieur, parce que c'est un territoire quand même qui est aussi un petit peu entre soi, alors qu'il est magnifique et que par le passé, il a démontré maintes fois qu'il a pu rayonner dans toute l'Europe.
Et qui va créer une dynamique pour le Berrichon, mais pour le territoire, pour la région, même d'ailleurs.
Ouais, c'est ça, c'est une chance inouïe et de cette capitale européenne de la culture, mais elle sera aussi belle que ce qu'on voudra bien qu'elle soit. Et naturellement, il y a des acteurs qui sont professionnalisés, dont c'est le métier de faire, dont le Printemps, donc c'est pour ça qu'on a intérêt d'être là et on doit répondre présent, on n'a pas le choix, je pense. Et puis pour nous, c'est super, c'est d'avancer dans des choses nouvelles, des collaborations avec des acteurs européens qu'on ne connaissait pas avant, donc c'est un nouveau printemps qui doit effectivement commencer à une métamorphose qui s'engage maintenant pour que en 28 et après 28, le printemps soit complètement différent, que ce soit un printemps européen. Et puis j'espère qu'il y aura plein d'autres acteurs qui feront de même, et puis surtout que ça encouragera des initiatives au sein des populations, des gens, notamment, et là je fais une pub pour eux, mais ils ont fait un dispositif que je trouve très ingénieux qui s'appelle le CRI, ou les CRI, et je trouve ça super. D'ailleurs, j'adore le terme de crier, s'exprimer, et le CRI, c'est voilà, vous avez une idée, vous la proposez, il la considère et il vous accompagne dans l'élaboration de l'idée. Si ça marche pas cette année parce que vous n'êtes pas complètement prêt, ça peut être l'année d'après. Et ça, c'est complètement inédit, ça n'a jamais été fait. Donc c'est là où je trouve que la proposition de Bourges 28, dès l'écriture du projet victorieux, c'est pas parce que c'était une petite ville qu'ils ont donné, cette capitale, parce que c'était le meilleur projet. Et ce projet était meilleur parce que, un, il est sur les projets très culturels, il est très pointu, il est très intelligent, mais il est posé sur une condition de cohésion territoriale. Et la cohésion territoriale, elle se fait avec les gens. Et les gens, justement, on les invite à proposer des projets. Et ça se fait pas dans les autres capitales européennes. Donc je trouve ça, c'est balèze ce qu'ils font.
J'ai une dernière question. Si François Hollande vient cette année, est-ce que vous lui ouvrez les portes? Parce que l'année dernière, il est venu, ça a plu. Il a amené la malédiction avec lui.
Alors, ça fait 2 ans qu'il vient. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a des idées en tête. Alors, écoutez.
À suivre.
Non, mais c'est la culture du printemps que d'accueillir les présidents.
Mais l'année dernière, il est venu.
On lui offre un vinyle à chaque année. Okay. On va sur le stand d'Emmaüs et on lui offre un vinyle chaque année. Alors, il commence à avoir une belle collection. Là.
Merci Boris, merci.
Et toute la programmation du Printemps de Bourges est à retrouver sur leur site internet. Je rappelle les dates, 15-20 avril à Bourges pour cette 49e édition donc du Printemps de Bourges. On aura évidemment l'occasion d'en reparler ici sur Bac FM. Tout de suite, c'est le retour du son pop rock. À 18h, c'est votre diff d'action. On était en direct ce matin. Et puis on se retrouve demain à 13h avec un nouvel invité, les infos de la mi-journée. Très belle après-midi et à demain.